Matin Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité, c'est l'humoriste Christelle Cholet. On parle de son nouveau one-man show musical, mais pas seulement, ça s'appelle Reconditionné. Olivier Benkemoun, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Jean Z, bonjour.
Bonjour.
Et je salue Jean-Luc Lemoine que je suis heureux de retrouver.
Oh Philippe, vous êtes de retour.
Mais oui, c'est moi.
On ne me prévient jamais.
Je vous préviens. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. J'en ai pas manqué une de ces sessions et aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire pénétrer dans les coulisses de votre rubrique.
Vous savez Philippe, choisir une émission pour cette chronique, c'est un peu une loterie. À chaque fois tu dis avec beaucoup de gourmandise que c'est super, que tu vas découvrir une nouvelle émission. Et puis parfois... Oui, boule noire de Motus. Tout ça pour vous dire que j'ai regardé La bataille des clans sur TFX. Alors je vous le dis tout de suite, le seul intérêt de cette émission, c'est si t'es enceinte et que tu cherches un prénom original pour tes enfants. C'est l'émission qu'il te faut. Émine, Bastos, Chan,
non.
Jazz.
Attends, il y en a qui s'appelle Bastos.
Bastos.
Ouais.
Bastos. Jazz, Maïsan, Joezy, Belle. Belle, c'est risqué d'appeler sa fille comme ça quand même. Hein. Enfin, avant d'avoir vu à quoi elle ressemble. Si t'appelles ta fille moyenne, tu prends moins de risques. Enfin bon. Et c'est toujours la poule et l'œuf. Tu sais pas s'ils ont des prénoms improbables parce qu'ils font de la télé-réalité ou si tu appelles tes enfants comme ça, ils seront obligés de faire de la télé-réalité plus tard. Si ton prénom te prédestine. Dans le doute, j'ai appelé mes enfants Paupiette et Côte de Veau. Personne n'essaiera jamais de les recruter, moi je vous le dis. Donc la bataille des clans. Il s'agit de deux clans qui s'affrontent, les JLC et les Gage. C'est tourné dans une villa en République Dominicaine, avec des jeunes gens musclés et des jeunes filles en string qui parlent de choses incompréhensibles. Pour vous donner une idée, les Marseillais à Cancun à côté, c'est un peu comme si tu regardais BFM Business.
Non.
Si, je vous raconte quand même. Ouais. Rentrons dans le vif du sujet directement avec Laura L.
Je suis phobique de tout ça, j'ai cru me pisser dessus. J'ai qu'une seule envie, c'est de tuer Bastos.
Bah Bastos, ça tombe bien, il a un nom prédestiné. Mais au fait, de quoi Laura, elle, est-elle phobique? Eh bien, le matin, au réveil, quelqu'un avait trouvé un petit insecte de 3 cm. On écoute la réaction tout en retenue de Laura, elle. Là, je me suis dit, il reste 1h50 à dérocher, ça va être long. Hein. Mais vous connaissez mon professionnalisme, j'ai donc pris 2 Doliprane et j'ai continué. Alors je vous préviens quand même, je ne vais pas vous faire de fausses promesses, c'était l'une des conversations les plus intéressantes de l'émission. Après, ils ont décidé de continuer les blagues sur l'insecte. Bon, là, j'ai essuyé mes oreilles, il commençait à saigner. Je me suis dit, bah, je vais appeler Philippe, je vais lui dire que j'ai le Covid et que je ne peux pas venir aujourd'hui. Mais comme vous aviez déjà grillé cette excuse vous-même la semaine dernière, j'ai continué. Ouais, ils ont fait une chanson pour Josie, allez, allez, me demandez pas pourquoi. Après les cris sur les insectes, j'ai trouvé ça plutôt reposant. Ensuite, la confession d'Alan a été pour moi d'un grand secours, comme l'apparition d'une lumière au bout du tunnel. Il a parfaitement résumé ce que je ressentais en regardant l'émission.
J'ai envie de le prendre à la rigolade, parce que ça, genre, c'est tellement fou, c'est tellement n'importe quoi que si je le prends premier degré, on va se redisputer et ça va dépousser sur une histoire qui n'a pas de sens.
Voilà, c'est exactement ça. J'ai pas tout compris à ce qu'il a dit, mais c'est ça. Surtout ne pas prendre ce programme au premier degré. Alors, fort de ces paroles réconfortantes, j'ai continué.
Moi, je veux pas que tu crois que genre, je te mets au même piédestal que toutes les autres. Genre, je te mets pas au même piédestal, genre.
Ouais, c'est violent, mais grâce à mon plan. Grâce à mon blindage mental en acier trempé, les fautes de français ricochent sur moi comme le feraient les balles sur le blindage d'une voiture.
C'est comme si que genre je lui fais la tête.
Vas-y tire, je m'en fous, je suis blindé, je te dis. Et si vous me trouvez méchant avec Alan, je vous rappelle que je suis méchant bénévolement. Sa copine Maïsan, elle fait partie du programme.
Évidemment qu'il a besoin de moi, Alan. Déjà parce que sans moi, il peut pas aligner une phrase grammaticalement correcte.
Ouais. Ah oui. Elle est lucide quand même. Hein. Donc je continue à avancer dans ce programme, t'es un explorateur avec son bécherel à la main, et là, soudain...
Ah waouh, je m'attendais pas du tout à ça, on est au bord de la plage.
Non, on est sur la plage et au bord de l'eau, parce que si t'es au bord de la plage, t'es sur la route.
C'est vrai.
Et c'est d'ailleurs au bord de cette route que je les ai laissés. Hasta luego, amigos.
Oh là là, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, je te mets au même piédestal, vraiment, franchement.
Genre.
À demain, Olivier Benkemoun, votre indispensable
acteurs,
ce matin,
comment? C'est écrit, ce sont des acteurs, c'est pas possible, je crois pas.
Mais ensuite, il magnifie le texte. il faut le dire. Mon indispensable. C'est pas seulement des acteurs, il faut du talent après.
Mon indispensable, c'est un film incroyable. Ça s'appelle Novembre. C'est le film sur l'enquête qui a immédiatement suivi les attentats du 13 novembre à Paris. C'est un grand film et c'est un sujet très important.
Jean Z, je vais pas me tromper d'année cette fois. 2023.
Exactement. On va parler de la toute dernière simulation de foot FIFA 23. Toute dernière parce que c'est une nouvelle simulation et toute dernière parce que c'est la dernière.
Et elle est extrêmement attendue, c'est rien de le dire. Dans un instant, Christelle Cholet, on parle de son nouveau One Man Show. Mais d'abord, musique avec Clara Luciani et le titre Cœur sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Elle dit bonjour à la régie, c'est Christelle Cholet, bonjour.
Oui, mais oui, parce que je me tourne, je suis de dos à eux depuis tout à l'heure.
Humoriste, comédienne, également chanteuse, on vous a vu dans plein de One Man Show. Le premier, c'était L'Empiaffé, hommage à Edith Piaf, vu par 700 000 spectateurs. Le dernier s'appelait justement numéro 5 de Cholet, je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça.
Il sentait bon celui-là.
Le cinquième, numéro 5. Votre actu, c'est un nouveau spectacle reconditionné et dans votre propre théâtre, le théâtre de la Tour Eiffel. Comment décrire ce spectacle? Ça part dans tous les sens, il y a plusieurs genres comiques.
Il y a plusieurs genres, exactement. Ouais. Mais j'ai plusieurs genres à moi toute seule,
exactement.
En fait. Et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle Reconditionné, celui-là, parce que on connaît, pour ceux qui me connaissent et qui viennent à tous mes spectacles, ils savent qu'il y a de la musique, qu'il y a de la danse, que c'est un mélange d'humour et de plein de choses différentes.
Il y a des personnages qui n'existent pas, et du One Man Show, avec vous qui racontez ce que vous avez sur le cœur, qui existait.
Ouais.
Ça démarre fort, parce que d'abord, vous mettez d'accord avec le public pour savoir ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire.
Oui, parce
c'est important.
C'est très important parce qu'on se pose cette question-là. Après, moi, je suis à mon sixième spectacle. Donc déjà, je me pose une question. Je me dis comment je vais les surprendre, comment je vais faire pour les amuser encore.
Ça, c'est normal. Et
après,
demander l'autorisation d'aborder certains sujets.
Mais
pourquoi?
Parce que je me suis posé ces questions. Parce qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que je peux faire des vannes sur les religions? Est-ce que je peux faire des vannes sur Poutine? Oui, parce que j'habite en France. Est-ce que je peux faire des vannes sur Macron? Oui, parce que j'habite en France. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé rigolo de partager ce moment-là de la pure création au départ où il y a la feuille blanche avec le public.
Et les vannes sur les Corses?
Non, il ne faut pas y aller là.
Pourtant, vous habitez en France.
Oui, mais j'ai mon mari est corse, alors je peux me permettre de temps en temps, mais ça dépend. Ça dépend de l'humeur.
Vous démarrez, vous attaquez avec l'une de vos marottes, les chansons qu'on ne pourrait plus écrire. Alors j'explique le concept. Ce n'est pas des face B de Gainsbourg qui seraient interdites aujourd'hui. Ce n'est pas le sketch du viol de Coluche qui ne repasse plus en radio. Des chansons que tout le monde connaît, qui passent encore, mais personne ne fait attention aux paroles. Exemple, ce tube énorme de Serge Lama.
Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle.
Et là, vous dites
est-ce qu'on pourrait écrire ça aujourd'hui? Non, parce que de toute façon, depuis la loi de 2006, si tu vas voir les petites femmes de Pigalle et que tu te fais choper par les flics, c'est 1 500 € d'amende. Est-ce que vous imaginez Vianney qui sort un tube aujourd'hui et qui écrit une chanson et qui dit qu'il va au Bois de Boulogne? Non, ça marcherait. Enfin, je ne sais pas comment ce serait pris. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. On se dit, mais aujourd'hui, c'est plus possible.
Un tube totalement anodin, qui pour moi me paraissait être du dans le Disney style, sinon un tube, même le tube d'Enrico Macias. Et là, vous apportez un éclairage, j'avais absolument pas vu les choses comme ça.
En 1965, c'est une chanson, en 2022, c'est une pub pour le tourisme sexuel. On voit le mal partout.
Voilà.
On n'y est pas encore peut-être, mais peut-être qu'on va y arriver, j'espère pas.
Non mais vous avez raison. Et vous dites heureusement qu'ils ne sont pas trompés quant à l'utilisation des mots femme et fille, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à l'utilisation des mots dans une chanson, dans un texte. Parce que si tu dis Serge Lama parle des femmes, Enrico Macias des filles, à quelles sont jolies les filles de mon pays où je m'en vais voir les petites filles de Pigalle, c'est pas la même chose. Pas les petites femmes de Pigalle, ça passe. Les petites filles de Pigalle, ça passe plus, voyez.
Ah oui, c'est pas 1 500 € d'amende, c'est
non,
directement...
Non. Donc le choix des mots est très important, mais sur les réseaux, partout, il faut faire toujours très attention. En 2 heures, on peut se faire décaniller, alors qu'on a voulu bien faire.
Puisque vous parlez du choix des mots, on y vient. Il y a un personnage, un morceau de stand-up qui donne le titre à votre spectacle « Reconditionné ». Qu'entendez-vous par là? Et vous faites la différence, parce qu'avant, on disait « réparer ».
Oui,
maintenant, on dit « reconditionné ».
Oui,
c'est différent ou c'est pas différent?
Ah oui, c'est différent. Un objet reconditionné coûte beaucoup plus cher qu'un objet réparé. même si c'est la même chose. Alors, je sais que certains auditeurs sont en train de se dire « Je pense que je me suis fait niquer pour mon iPhone. Mmh. » Oui, vous pensez bien, mesdames et messieurs. Mais en achetant un objet reconditionné, et c'est pour ça que mon spectacle s'appelle « Reconditionné », on améliore son empreinte carbone. Il y a quelque chose de positif derrière. On produit moins et j'ai l'impression que c'est un mot qui va nous faire avancer vers quelque chose de meilleur.
Évidemment, je vous pose la question que vous vous posez et que vous posez au public. Qu'est-ce que vous avez vous-même de reconditionné ?
Ben, d'après vous, regardez, dites-moi.
Non, non, j'ai vu le spectacle, c'est à vous de dire.
Je ne me suis pas fait reconditionner, pas encore. Je reconditionne assez régulièrement mes cheveux et mes cils, on va dire, voilà.
Et dans les vannes et dans les registres d'humour, parce que ça compte aussi.
C'est ça qui est reconditionné.
Le public veut retrouver ce qu'il connaît,
oui,
et ne veut pas retrouver ce qu'il connaît.
Exactement.
Le paradoxe est là.
Il est là. C'est
si
pour ça que j'ai appelé reconditionné.
Si vous faites un spectacle entièrement nouveau, personne n'en veut. Et si c'est le même, personne n'en veut.
Non, parce qu'on a besoin d'avoir l'essence des artistes qu'on va voir. On a besoin de retrouver la personne qu'on aime. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Reconditionné. Dans ce spectacle-là, ce que je n'ai jamais fait dans les autres spectacles, il y a plein de personnages. Et je me suis vraiment amusée à aller chercher des personnages, des nouveaux, des personnages que j'ai inventés, des personnages que je suis allée chercher aussi sur les réseaux. Je suis allée voir des gens sur les réseaux et j'ai construit des personnages autour de ça. Et je m'amuse beaucoup avec ce nouveau genre pour moi.
On va parler de cinéma avec un film qui est presque, qui a une attitude presque documentaire, documentée. C'est Olivier Benkemoun qui nous raconte. Christelle Chollet avec nous, elle fait elle a bien raison. On est sur Europe 1, on est bien.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Christelle Chollet, reconditionnée, c'est son One Woman Show, c'est au théâtre de la Tour Eiffel. On n'a pas donné les jours et les horaires.
Mardi, jeudi, vendredi, samedi, deux fois, à 16h et 21h. Ça m'a fait rire que vous avez dit Christelle Chollet est reconditionnée. Tout le monde croit que je suis reconditionnée, que je fais de la chirurgie esthétique grâce à vous. Merci beaucoup, monsieur Vandel.
C'est vous qui avez choisi ce titre, c'est pas moi.
Oui, c'est vrai.
On choisit un titre, on s'y expose.
J'assume.
Et vous n'allez pas me reprocher vos propres turpitudes, si j'ose dire. Vous avez le temps d'aller au cinéma, c'est pour ça que je demandais les horaires.
Ah, j'adore aller au cinéma et j'ai hâte de voir le film dont va nous parler monsieur.
Monsieur, c'est Olivier Benkemoun.
Bonjour,
Olivier. Monsieur. Votre indispensable, c'est Novembre, le film sur l'enquête qui a immédiatement suivi les attentats du 13 novembre, donc à Paris, Olivier.
Oui, d'abord, vous dire que c'est un très grand film de cinéma, signé d'un réalisateur qui a déjà et désormais un savoir-faire en matière de fiction tirée du réel. Il s'appelle Cédric Jiménez et il a déjà signé La French, sur l'assassinat du juge Michel et Bac Nord, où il était question des policiers de la brigade anticriminalité de Marseille.
Bac Nord qui a beaucoup fait parler la presse et qui a cartonné en salle.
Évidemment. Et avec Novembre, Cédric Jiménez vous emmène dans les coulisses de l'antiterrorisme français.
Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue.
Novembre, c'est l'histoire d'une traque de 5 jours. 5 jours sans dormir ou à peine 5 jours vissés à des téléphones, des ordinateurs, des caméras de surveillance. 5 jours de traque où la police a déployé tous ses moyens et son intelligence pour trouver les terroristes qui ont commis les attentats meurtriers du 13 novembre à Paris.
Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré Rubicha au Carillon, rue de la Fontaine au Rouen.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
Alors avec ce film, d'un coup, vous allez être projeté au milieu du cœur de la tornade où tous les hommes disponibles, tous les enquêteurs et enquêtrices de terrain de l'antiterrorisme vont devoir, en quelques minutes, se mobiliser et chercher de l'information. Qui sont ces terroristes? D'où ils viennent? Obtenir des témoignages, trier des milliers d'appels, suivre des pistes, faire fausse route, revenir en arrière, revérifier des infos, visionner des milliers d'images, écouter des centaines de communications et travailler sous pression, celle des médias, celle des politiques, celle de l'opinion publique. Le parti pris du film, c'est de ne jamais montrer les tueries ou les bains de sang, mais les 5 jours de traque qui sont comme prendre 5G de pression cloué au siège avec une envie de vomir terrible à la fin.
C'est quoi le sort du 13 novembre?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper.
Novembre, c'est une fiction hyper documentée avec un souci de réalisme absolu pour faire comprendre le fonctionnement de l'ASDAT, la sous-direction antiterroriste, qui est un service secret défense, comme le précisait Cédric Jiménez lors de la conférence de presse à Cannes au mois de mai dernier.
C'est un service qui est secret défense, effectivement. Ils sont tous sous fausse identité. On a gardé leur façon de travailler, leur profil, mais ce qui est dans le film est vrai dans le sens où c'est leur façon de travailler, c'est leur méthode. Ce côté très collectif, très organisé, très pyramidal, avec une nécessité d'efficacité totale. Et pendant ces 5 jours-là, ils n'ont fait que ça. Ils ont laissé leurs émotions de côté. Ils parlaient d'effet tunnel.
Je voulais que l'on écoute également, ça c'est Greg Jiménez, le réalisateur, je voulais qu'on écoute également Jean Dujardin et Sandrine Kiberlin qui jouent tous les deux dégradés des chefs de l'ASDAT, la sous-direction de l'antiterrorisme. Donc.
Dans l'ASDAT, justement, quand on a remis le discours du président Hollande, ça a été un moment fort, forcément, où une espèce de mélange des genres, on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, et on se dit je crois que je suis en train de faire quelque chose de bien, je crois que je suis en train de me souvenir. Je crois que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui travaillent pour nous. Et c'est parfois compliqué, on sait, la fonction de policier, de flic.
Mais la question est importante, parce que moi, je me souviens quand Cédric m'a proposé le film, j'avais une réticence par rapport à la proximité des faits. C'est il y a 7 ans seulement, donc on a tous été transformés par cette horreur. Et donc, le seul point de vue possible était les coulisses de l'enquête.
Alors effectivement, elle précise, Sandrine Kiberlin, que ça fait seulement 7 ans, que certaines voix d'ailleurs ont dit c'est trop tôt pour faire un film. Moi je trouve que non, je pense que ce film est une pièce essentielle dans le puzzle de la compréhension. Vous allez voir d'où viennent les auteurs, leur parcours, leur connexion, leur méthode pour récupérer des armes, leur lien avec le grand banditisme et puis leur détermination, surtout leur détermination. Et vous allez découvrir comment un témoignage a réussi à tout faire basculer.
Je sais où sont les deux terroristes.
Elle vit sous une fausse identité, exact. Cette jeune femme. Ouais. Évidemment, exact. Un courage aujourd'hui absolument encore. Incroyable. Et sa vie, enfin, elle l'estime, est presque menacée. Elle dit que la France lui a pas rendu les égards qu'elle devrait. Est-ce que c'est très documenté? Est-ce qu'on voit aussi les ratés de l'enquête? Ou est-ce que c'est juste l'enquête de A à Z? Ou est-ce qu'on voit aussi les doutes et les ratages? Il y a eu des foirages avec la...
Est-ce
que c'est dans le film?
Tout ça est dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont tout montré. Et ils ont montré l'humanité de ces enquêteurs. C'est ça qui est très réussi.
Christelle Chollet, vous étiez très attentive.
Très attentive parce que déjà, les extraits choisis font froid dans le dos. Quand on dit qu'ils sont entrés dans le Bataclan, on s'y remet immédiatement. Et moi, ça me bouleverse. Et je trouve effectivement que, tôt ou pas tôt, c'est essentiel de faire un film comme ça pour un devoir de mémoire et effectivement rendre possible le fait de voir ce qui s'est passé et comment ils sont arrivés à les trouver et tout. Mais je trouve ça formidable.
Enfin, vous irez le voir?
Mais bien sûr, je vais aller voir ce film-là et je vais aller voir Simone aussi. Vous avez vu Simone, Olivier, ou pas?
Moi, j'ai vu Simone, j'ai pleuré. Oh, j'ai chialé, je vous en parlerai la semaine prochaine.
Je reviens la semaine prochaine alors.
Oui, on peut aller écouter aussi. Moi, je suis pas au courant, c'est quoi Simone?
Simone, c'est l'histoire de Simone Veil.
Ouais.
Ah oui,
c'est le parcours de
Elsa
Simone
Zilberstein.
Mais évidemment, j'ai oublié que c'était ce titre-là. Exactement. Ben, ouais. Film porté par Elsa Zilberstein.
Absolument.
Merci
depuis
beaucoup.
Les camps et tout ça et tout son parcours politique admirable.
Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Culture Média continue. On est en compagnie de Christelle Chollet. On ne le regrette pas. À tout de suite.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Christelle Chollet, son nouveau spectacle, elle le donne tous les soirs au théâtre de la Tour Eiffel. Il s'appelle Reconditionner. Et il y a à la fois du stand-up, c'est vous qui parlez. Il y a aussi des personnages.
Oui.
Quand vous arrivez avec une tête de taureau, c'est pas vous, c'est un personnage.
C'est un personnage.
Qui est Fernand, ce taureau? Pourquoi?
Ferdinand. Ferdinand.
Oui, j'avais noté Ferdinand.
C'est Ferdinand. Oui, parce qu'en fait, Ferdinand, c'était par rapport à ma fille aussi, c'est un petit dessin animé qu'elle regardait quand elle était petite. C'est un taureau qui s'appelle Ferdinand. Un taureau écolo, d'ailleurs.
Ouais.
Et parce que j'avais envie qu'on ait un personnage qui regarde les humains, mais du côté de l'animal. Parce que bon, c'est facile de regarder les humains et de se dire des choses sur nous-mêmes, mais c'est plus important et plus intéressant si c'est un animal.
Alors racontez, qu'est-ce qu'il nous trouve?
Il nous trouve bizarre, ce taureau. Il dit qu'on achète des trucs qui servent à rien à part être achetés. Il dit qu'on a des contradictions tout le temps, que lui, il pourrait pas vivre avec ses contradictions. Genre, il dit, mais c'est quoi ça? Ah, le vaccin Pfizer, très peu pour moi, on connaît pas sa dangerosité sur le long terme. Il dit, mais comment vous pouvez vivre avec des contradictions comme ça, un mec qui fume et qui veut pas se faire vacciner, qui dit non, je peux pas parce que je sais pas. Il dit,
je sous-entends comme si on savait pas comme les si dangers du tabac
du
sur
tabac,
le long terme.
Voilà,
et ça lui pose aucun problème.
Alors il est un peu puéril parfois. Il dit, vous inventez des objets qui servent à rien, et puis il tacle un petit peu les écolos. Il dit, moi je suis très content qu'il y ait des maires écolos en France, hein, mais oui, il s'occupe des sapins de Noël et des maillots de bain dans les piscines municipales. Bref, il gère les priorités climatiques. Voilà.
Beaucoup de gens se disent ça.
Bah, moi, ça m'énerve, en fait. Alors, c'est Ferdinand qui le dit, donc, mais moi, ça m'énerve parce que je trouve que c'est absolument contre-productif que au quotidien, on fait des choses, nous, avec nos enfants. Et nous, d'ailleurs, nos enfants sont mieux éduqués que nous, je trouve. Mm-hmm. Ma fille, elle a des propos le matin. C'est incroyable quand elle me dit « Maman, il ne faut pas faire ça, vas-y, éteins la lumière et tout. » Et on fait énormément de choses pour que la planète aille mieux. Et derrière, on a des gens qui sont à la tête de mairie, de l'État, qui nous flinguent. Et c'est chiant, voilà, ça m'énerve. Donc c'est le taureau qui le dit.
Dans quel sens ils vous flinguent ?
Bah, ils flinguent parce que quand on parle d'écologie, il y a des réfractaires aussi à l'écologie. Il y a des gens qui disent non, mais arrêtez, vous faites chier, le bio, le machin. Et du coup, ça arrange pas, ça arrange pas notre affaire avec ces gens-là. Et ça arrange pas. Bon, après, quand on va un petit peu aux États-Unis, quand on se balade dans le monde, on se rend compte qu'on n'est pas nombreux à faire attention quand même. Et puis aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à bouffer et qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller se préoccuper de savoir si ils ont jeté le papier dans la poubelle jaune alors qu'ils n'ont pas à bouffer, quoi. Et que leur préoccupation, c'est de faire manger leurs enfants.
On avait parlé ici, le vegan, c'est un problème de riches.
Et oui, oui, oui.
Parce
oui,
que dans certains pays d'Afrique, quand ils ont de la viande, ils sont absolument ravis et c'est la fête.
Et c'est la fête. Donc voilà, tout ça est paradoxal. Mais si on peut faire en sorte que dans notre pays ça aille mieux et qu'on nous casse pas les pattes avec avec des choses qui n'ont rien à voir, enfin voilà. Et
parfois également, Christelle Cholet, vous prenez des détours pour parler d'un sujet. Je pense au sketch de la prédatrice sexuelle. Mmh. Elle est entendue par la police parce qu'elle a violé un homme. C'est à la fois absurde, mais en même temps ça parle en creux. Des viols perpétrés par les hommes sur la personne des femmes. Elle est accusée de viol sur mineur. Il a 15 ans et demi. Elle dit « J'ai pas remarqué à cause du duvet. J'ai pas vu qu'il était mineur. »
C'est la moustache qui m'a induite en erreur. « Ah, c'est du duvet ?» Ah, bon, si on commence à jouer sur les mots, elle dit « Oui, parce que c'était très important pour moi de parler de ça. J'ai une petite fille qui a 13 ans. Et moi, quand je vois toutes ces affaires, avec une omerta absolue sur toutes ces affaires, tout le monde savait pour certaines personnes, je me dis « Je veux pas que ça lui arrive et je veux pas que ça arrive à d'autres femmes et je veux tout faire pour qu'on arrête. » Ça fait des centaines et des centaines d'années. Donc que ça arrive à des femmes, mais et que moi ça m'est arrivé. Je vais vous dire, il y a pas très longtemps, une petite dizaine d'années, je vais jouer dans un théâtre en province et il y a le directeur du théâtre à la sortie de la salle qui me dit j'aime bien quand t'as tes talons, tu peux pas garder tes talons pour après, et qui pendant le cocktail après le show me dit tu veux pas aller rouler une pelle à mon copain. Et je ne dis rien à mon mari parce que je sais qu'immédiatement, si mon mari, parce que mon mari est là, il va finir en garde à vue, je le sais. Donc je le remballe et après on en parle, on envoie une lettre à la mairie et tout. Mais ce monsieur est encore en place. Donc moi, c'est pas grave, je suis grande, j'avais 45 ans, j'ai pas de problème, je me défends. Mais ça peut arriver à une gamine de 20 ans qui a pas de défense et qui sait pas. Donc moi, je pouvais pas ne faire un nouveau spectacle sans parler de tout ça. Voilà, parce que ça suffit, il faut arrêter, quoi.
Et vous lui avez parlé ensuite à ce directeur de théâtre ?
Oui, bien sûr, je lui ai dit, mais en fait, pour lui, c'est pas... C'est encore, moi, j'ai pas été touchée dans ma chair, je veux dire. Voilà, c'était des paroles, c'était très, très blessant et très humiliant pour moi. Je pouvais pas répondre parce qu'il y avait des tas de gens autour de moi qui me serraient la pince et tout ça. Mais je veux dire, il y a eu cet épisode-là, mais c'est surtout toutes les affaires du moment. Donc, c'était compliqué de parler de ça, de faire un sketch là-dessus, parce que c'est très compliqué de rire de la violence des femmes, mais c'est même impossible. Mais j'ai voulu absolument parler, donc j'ai inversé la situation. C'est-à-dire que c'est une prédatrice sexuelle et qui reprend absolument tous les termes. Mais je n'ai pas violé cet homme. Écoutez, on était amants depuis un mois déjà. Comment se fait-il que cette fois, elle aurait dit non ? Voilà.
Et vous l'expliquez même au public, ce sketch est une parabole sur toutes les affaires du moment. Oui. Pourquoi faut-il l'expliciter au public ? Vous aviez peur que certains ou certaines prennent le sketch au premier degré ?
Non, pas, mais en tout cas, je tenais
parce
à l'expliquer.
Parce que vous avez dit
oui,
tout à l'heure,
peut-être,
avec les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui peut sortir d'une salle de spectacle.
Sortir. Exactement, vous avez raison, c'est ça. Mais je tenais absolument à dire, oui, j'ai fait ça pour ça, et j'ai fait ça pour dénoncer, et j'ai trouvé la façon avec laquelle il fallait le faire, j'espère.
Il y a aussi des choses plus légères, sketch sur les influenceuses. Pourquoi elles vous énervent ? En fait, ça, je comprends. Mais pourquoi elles vous fascinent à ce point ?
Parce que c'est un peu comme un Disney, en fait, pour moi. J'adore les dessins animés. Et parfois, je me retrouve en situation de regarder ces influenceuses comme si je regardais un personnage de dessin animé.
Mais sauf que les dessins animés ne vous énervent pas. Pourquoi vous regardez quelque chose qui vous énerve ? C'est une contradiction que je n'ai encore jamais réussi à décortiquer.
Vous ne regardez jamais des choses qui vous énervent ?
Soit ça me plaît, je regarde. Et ça ne me plaît pas, je ne regarde pas.
Mais en fait, ce n'est pas énervé dans le sens...
Je me souviens de cette phrase.
C'est une espèce de fascination.
Je vais vous dire le sens de ma question. C'est vraiment une interrogation que j'ai depuis des années et des années, quand Love Story est arrivé, c'était la première émission de télé-réalité. Je me souviens d'un intertitre dans le journal Le Monde. C'était un jeune qui était fan et qui disait je déteste et j'adore.
Ouais, oui, mais c'est ça. Mais ça vous arrive pas, ça
pas
jamais. Moi, ça m'arrive très souvent.
Expliquer.
Mais c'est un sentiment très étrange d'être attiré par quelque chose parce qu'on a envie de voir et en même temps, on se dit mais c'est pas possible, je peux pas regarder ça. Mais il y a quelque chose au fond de nous qui nous attire vers ça. Après, moi, je trouve de la drôlerie. Je trouve que certaines, mais c'est des humoristes. Donc il y a des choses qui me font beaucoup rire aussi. Mmh. C'est ça. On est attiré par quelque chose. On se dit non mais c'est pas possible. Et on regarde une deuxième fois, on dit mais si c'est possible. Mmh. Elle a quand même l'eau de son bain. Mmh. Moi, Manabi. Bilou dans mon sketch, il dit non, moi je vais pas à l'eau de mon bain, je vais à l'eau de mes cabinets, un vaporisateur. Mmh. Bon, mais je vais à l'extrême, mais elles vont à l'extrême. Et puis en même temps, elles me fascinent aussi parce que c'est des nanas, un petit côté, c'est des nanas qui ont pris leur vie en main comme ça.
Empowerment.
Et qui utilisent un créneau, qui a un créneau actuel et qui y vont quoi. Donc voilà, c'est fascinant aussi de se dire. C'est un paradoxe total pour moi.
Il y a
moi.
Deux lectures puisqu'on peut se dire Kim Kardashian est devenue milliardaire.
Mais alors
donc,
milliardaire
c'est
après
de l'empowerment,
avec
et en
quoi
même temps,
et
on peut
comment
se dire avec rien.
Bah ouais, mais en même temps elle doit savoir faire en fait, elle doit avoir une sacrée.
C'est pour ça que c'est intéressant.
Oui.
Ça s'appelle Reconditionner. On ne parle pas de Kim Kardashian. C'est mis en scène par votre mari et c'est joué par Christelle Cholet. Vous restez avec nous. On va parler jeux vidéo. Il y a FIFA 2023 qui arrive dans les consoles et ça va être un carton planétaire. A tout de suite avec Jean Z dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes un enfant, Philippe.
Ça vous parle cette musique?
Oui, ça me parle.
Ouais.
Non, ça me parle pas du tout, parce que je suis pas du tout sur les jeux vidéo. Je vais pas
oui,
vous mentir.
Mais si, ça vous a parlé, parce que vous avez reconnu qu'on allait parler jeux vidéo.
Oui, absolument. Parce que j'ai vu votre tête et je vous ai vu comme un enfant en train de faire tic 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 sur les touches.
Et en plus, je suis pas un gamer. Jean Z en est un. Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler de jeux vidéo ici. Je le dis toujours en préambule de cette émission. Tous les médias, toutes les formes de culture dans Culture Média. Et là, vous nous parlez de la sortie d'un jeu événement FIFA 23. Qui sera sans doute comme FIFA 22 ou FIFA 21 le produit culturel le plus vendu cette année en France et peut-être dans le monde. D'abord, expliquez-nous en quoi FIFA est le produit culturel le plus vendu cette année.
Alors, c'est plus une question de valeur que de volume. Je m'explique, en tête du box-office français des salles de cinéma, on trouve Top Gun Maverick avec 6,5 millions d'entrées. En général,
oui. Film européen.
Film européen. En général, un épisode, c'était le point promo. En général, un épisode de FIFA se vend à près de 1,5 million d'exemplaires sur le sol français. Alors, de fait, on peut se dire que Tom Cruise a largement gagné le duel sur le sol hexagonal, sauf que le prix de la place de cinéma est en moyenne de 8, 9, 10 euros, on ne sait pas, mais quand celui de FIFA est de 60 euros. Voilà, quand vous en vendez 10.
Pour une famille de 4, 5, 6, 7, 8, peut-être. Ouais,
ne m'en parlez pas. Sans oublier la poule aux œufs d'or d'Electronic Arts, c'est le FUT. Alors, ça n'a rien à voir avec les pantalons.
Ouais, c'est
le FIFA Ultimate Team qui permet aux joueurs de composer leur équipe de rêve avec un système entre la pochette surprise et l'album Panini. En gros, vous achetez des pochettes virtuelles en espérant y trouver les cartes de vos footballeurs, de vos joueurs préférés. Et vous les jouez en ligne. Ensuite, vous composez votre équipe avec ces cartes trouvées.
Alors attendez, elle n'a rien compris.
Non, mais parce que...
vous allez être encore plus sciés quand vous allez entendre combien ça rapporte. Jean.
Alors, 1,5 milliard de dollars à Electronic Arts.
Pourquoi je fais pas des spectacles
année,
virtuels, moi, en fait.
Ça fait, en gros, 30% de son activité globale. Plus d'un milliard et demi.
Ouais. Donc, en 2021. Ouais. FIFA sera bien le bien culturel le plus lucratif en 2023. Alors, qu'est-ce qui fait, il y en a toutes les années, en gros, qu'est-ce qui fait un bon FIFA par rapport à un moins bon FIFA?
Alors, c'est une simulation de foot déjà orientée vers le spectacle, un peu moins vers le réalisme, des commentateurs plus vrais que nature. Cette année, les envolées lyriques d'Omar Da Fonseca et de Benjamin Da Silva ont remplacé Hervé Matou.
Et si vous voulez pas vous lever et crier Messi, Messi, allez vous coucher, messieurs dames.
Voilà, allez vous coucher, on n'ira pas tout de suite. Pierre Ménès qui avait été débarqué l'an dernier de FIFA 22, car mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle, lui de son côté. Et FIFA, ce sont aussi des musiques quand même, parce qu'on oublie, mais depuis les années 90, il y a une super BO qui accompagne tous ces FIFA. On retrouve cette année Nas, Jack Harlow, Danger Mouse ou encore Stromae.
C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus...
sont des titres originaux composés pour le jeu ou est-ce qu'ils ont récupéré dans le catalogue ?
Moitié-moitié. Il y a un catalogue qui est déjà là et pour moitié, ce sont des compositions originales. Donc il y a de l'argent. Pour la première fois, un jeu FIFA va mettre une femme également sur la jaquette. C'est l'Australienne, la joueuse australienne Sam Kerr, aux côtés du Parisien Kylian Mbappé. Vous m'avez posé la question
bien sûr,
hier,
excellent.
Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont Kylian Mbappé et Sam Kerr
est-ce qu'il est
sur
partout
la
dans
jaquette
le monde ?
Oui, il est partout dans le monde. Et l'an dernier, c'était déjà le cas. Pour le reste, c'est incroyable. De toute façon, c'est une star mondiale. Et pour le reste, le tir de loin a été amélioré. Pour moi, qui ai des cheveux blancs, le jeu est un peu plus lent, donc c'est plus cool. Ça fait moins ping-pong, donc j'y joue un peu plus facilement. Pour le reste, Messi, Mbappé, tout ça, ils sont super bien faits. Hein. Bon, là, c'est génial. Là, il y a vraiment du photoréalisme. D'autres, sont pas logés à la même enseigne. Hein. Par exemple, il y a le joueur de Manchester City, Jack Grealish, qui a passé un gros coup de gueule en comparant son avatar FIFA à un personnage moche de Toy Story. Et c'est vrai qu'il ressemble un peu à une lampe.
C'est vrai.
Il ressemble un peu à une lampe. C'est assez moche.
En fait, ils ont mis tout leur budget sur les stars.
Exactement.
Et après les autres, ils ont pris les stagiaires.
Rien à foutre des autres.
FIFA, vous me dites, ce FIFA 23 sera le dernier FIFA.
Oui, l'an prochain, en 2023, ce sera rebaptisé EA Sport FC. Entre la FIFA, la vraie FIFA Electronic Arts, et le torchon a brûlé. FIFA qui demandait 250 millions d'euros par an pour utiliser sa licence. Electronic Arts a refusé. Pour jouer aux prochaines Coupes du Monde de foot, ce sera uniquement sur FIFA 23. Donc il y aura la version féminine et masculine et à télécharger prochainement, ce sera gratuit pour jouer sur les stades qataris et australiens puisque la Coupe du Monde féminine 2023 ce sera en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Question business, quelles conséquences va avoir ce divorce pour l'éditeur ?
Sans doute négligeable. EA n'aura pas le droit d'utiliser évidemment le nom des compétitions de la FIFA et le nom de la FIFA mais notamment cette Coupe du Monde, mais il aura tout le reste ou presque. Et il a déjà passé un deal avec la Liga, le championnat espagnol, pour 5 ans et 30 millions d'euros. La Liga et les autres compétitions vont suivre et dans les faits, en fait, dans les simulations de foot, il n'y a que FIFA. Voilà.
Ouais,
le PES, qui était le concurrent, est devenu eFootball, un jeu gratuit, mais qui peine
avec
à convaincre.
Têtes horribles.
Oui,
on aurait dit des rats et des mulots.
Que des têtes de lampe. Voilà.
C'était
que des têtes de lampe.
Vous avez pas vu ça ou pas ?
Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas
jamais
suivi.
Les gars ressemblaient moins. On aurait dit des portraits robots dans un film de Louis de Funès. Personne ne ressemblait.
Ah, c'est horrible. Non, la première version était horrible. Ils sont améliorés.
Ouais.
Non, ils sont améliorés. Ils sont améliorés. Mais bon, FIFA, c'est FIFA. Voilà, on appellera ça eFoot ou eSports, comme on voudra, mais ce sera plus le vrai FIFA. Quant à FIFA, elle espère vendre sa licence à un autre éditeur de jeu, mais c'est pas fait.
Ce que tout le monde attend, évidemment, c'est la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. C'est pas la peine que je le rappelle ici. Ce sont pas des clubs, mais ce sont des équipes nationales qui jouent. Est-ce qu'il y a les stades qataris dans ce FIFA 23 ?
Oui, il y aura les 8 normalement qui seront retranscrits dans une. Alors on sait
ça
pas tout.
Pas encore.
Non, parce qu'on n'a pas la date de sortie. Electronic Arts a confirmé qu'il y aurait un ajout, ce qu'on appelle un DLC, une extension gratuite, avec une phase Coupe du Monde, un mode Coupe du Monde, mais on n'a pas signalé la date de sortie.
Après la victoire. Ouais,
non, non, ce sera un peu avant, je pense.
Avant,
ils vont espérer quelques téléchargements.
Ouais,
non, forcément, ce sera avant. Et vous me posiez d'ailleurs une bonne question. Pourquoi ça s'appelle FIFA et finalement, pourquoi ce mot FIFA est si important ou a une moindre importance? C'est parce que FIFA, c'est un peu un synonyme de football. Mais
c'est
derrière,
la fédération.
Oui, mais derrière, ça, c'est comme un peu PlayStation, Nintendo, c'est un synonyme de jeu vidéo. Là, FIFA, c'est un peu le synonyme du football. Mais derrière, il y a en gros que la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est plus le centre d'intérêt en réalité des jeux vidéo FIFA. C'est plus les clubs, c'est plus la Ligue des Champions, c'est plus le foot dont je parlais. Voilà, exactement, les stars. C'est plus ça qui est mis en avant que cette fameuse Coupe du Monde qui est devenue, on va dire, un point à côté.
Mais je m'y connais en foot, moi.
Mais j'adore, parce que Christelle Cholet, on a démarré la chronique, elle était à l'arrêt. Depuis qu'elle a entendu les 1,6 milliard, on ne peut plus l'arrêter. Merci, Jean-Jacques. Question média continue. À tout de suite, on marque une pause. Allez vous remettre de vos émotions.
Je m'en remets là.
À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle avec Christelle Cholet, non seulement de jeux vidéo, de FIFA 23, de milliards, mais de ce spectacle reconditionné. C'est au théâtre de la Tour Eiffel. Vous pouvez redire les jours et les horaires.
Oui, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi à 2 heures différentes, à 16h et à 21h.
Beaucoup de personnages sur la scène, tous incarnés par vous. Certains existent, certains n'existent pas. La Love Coach, elle n'existe pas.
Si, ça existe une Love Coach.
Ah bon ?
Vous n'êtes pas sur les réseaux Tinder et tout ça ?
Pas du tout.
Moi non plus d'ailleurs, mais si vous voulez aller vous inscrire, moi je vous conseille de faire appel à une Love Coach. C'est quelqu'un qui... C'est comme une...
Comme un coach sportif ? Vous savez quoi, quand j'ai vu ce spectacle, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que vous aviez inventé.
Tout est vrai. Vraiment, je suis allée... Alors le taureau aussi, mais vraiment une Love Coach, vous allez voir, c'est très très...
Et donc, elles expliquent aux jeunes garçons, aux jeunes filles, comment séduire, comment être séduisant ou séduisante.
Sur les réseaux, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut pour attirer la personne qu'on veut, ce qu'il faut plutôt mettre, ce qu'il faut, la photo de quel côté, voilà. Et donc, ma Love Coach, dans mon spectacle, elle n'est pas très sympathique, mais...
Alors, vous avez forcé le trait, c'est peut-être pour ça que j'imaginais que ça n'existait pas.
Mais le principe existe, bien sûr.
Autre personnage...
qui amène une question. Est-ce que vous attendez des bonnes notes de ce spectacle ?
Écoutez, les notes, mais je crois que c'est... Tout le monde note, tout le monde dans cette société, vous avez remarqué, on est sorti de l'école pour pas y revenir et on se fait noter tout le temps. Mmh. Mais alors, je trouve, ça
on
doit
note
être...
les taxis.
Les taxis, on note le chauffeur, les hôtels, le taxi, les artistes, ouais. L'itinéraire. On note les médecins. Un prof de maths qui note un devoir de maths, c'est normal, mais un patient qui note son dentiste, le mec, il a bac plus 9 et on lui met 2 sur 10 parce qu'il a pas le dernier par image dans sa salle d'attente.
Non, mais attendez,
c'est incroyable.
Ça, c'est une vanne d'humoriste ou c'est vrai? Où on note les dentistes?
Bah, bien sûr qu'on note les dentistes. Vous allez sur Google et vous allez voir, il y a 10 sur 10 à tel dentiste. Et bien sûr, on note les dentistes et tout.
Et ça alors, comment ça se passe quand on fait le métier que vous faites? Parce que déjà, autrefois, il y avait les notes dans les journaux et puis après, il y a eu Allociné. Je me souviens, ça avait fait scandale que les films aient des notes. Maintenant, il y a des notes partout.
Ouais, mais
comment vous faites-vous ?
Bah surtout. Alors moi, je suis pour que quelqu'un aime ou pas. C'est-à-dire qu'on dit, bah, moi j'ai aimé, j'ai pas aimé, et on argumente. Mais mettre des notes, c'est complètement fou. Bah nous, ça, bah, sur les réseaux, sur tous les sites de réservation et tout, vous avez des notes.
Bon, alors vous avez combien en ce moment ?
Moi, j'ai des bonnes notes. Mmh. J'ai 5 étoiles.
Sur combien ?
Je ne sais, sur 5.
Sur 28. Et c'est assez rare, pour signaler, parce qu'il y a votre mari qui est aussi votre... C'est votre co-auteur ou c'est votre auteur ?
C'est mon co-auteur.
Co-auteur, vous avez acheté un théâtre, pas n'importe lequel, le théâtre de la Tour Eiffel. Alors je précise, il n'est pas dans la Tour Eiffel. Hein,
non, il mais est à côté. Juste
c'est un établissement historique qui remonte à 1907, c'est bien
exactement,
ça ?
Exactement.
Question, ça change quoi d'être chez soi ? Est-ce que ça retire un risque ? Parce qu'on est certain de trouver une salle qui vous accueille ? Ou au contraire, ça rajoute un risque ? Parce que si on ne remplit pas, c'est la double peine.
Les deux, mon capitaine. Et mais en même temps, c'est un bonheur de pouvoir programmer d'autres personnes. On a eu la chance d'avoir Victor Vincent, Maxime Gasteuil, entre autres.
Ouais, non, mais là, vous êtes placé jusqu'au 28 janvier.
Oui.
Donc, il faut remplir. Pardon de vous dire ça. Je veux pas être le chat noir.
Mais qui vient d'arriver, sans mort de rire.
500 personnes jusqu'au 28 janvier, c'est pas donné à tout le monde.
Non,
et c'est... vous avez déjà rempli, c'est votre sixième spectacle. Oui. Il y a plein qui sont très contents de tenir un mois.
Oui, ben écoutez, moi j'aime bien jouer très longtemps à Paris et depuis l'Empiaffé, titre. Depuis l'Empiaffé.
Non, je souris parce qu'il y en a beaucoup qui sont contents de jouer longtemps, mais ils n'y arrivent pas. Le public ne vient pas.
Bah, je vais pas dire à moi-même, ah bah c'est formidable, je remplis, mais c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir un public qui me suit et j'ai de la chance d'avoir un co-auteur de Marie qui me fait des spectacles et qui en écrit des spectacles qui plaisent. Donc je suis très gênée en fait de
alors,
cette question.
Je vais changer de sujet. Vous avez participé aussi à la 4e édition de Masked Singer. Vous étiez dans le Dalmatien.
C'est la preuve.
Pas avoir une imitation de cette qualité à cet instant-là. J'avoue,
et là, c'était le Dalmatien, ouais. Parce que le caniche, c'est pas pareil.
Vous dites avoir accepté l'émission pour votre fille de 12 ans, mais elle dit, je vais te reconnaître dès la première seconde. Est-ce qu'elle vous a reconnu dès la première
seconde ?
Direct.
Elle était là, puis elle a fait sur le canapé, elle m'a regardé, elle fait... Maman, mais direct. Mais tout le monde m'a reconnu à la première seconde, en fait. Et
comment ça se fait ? J'ai vu ça que Chantal Latsou et Panacloc vous avez reconnu tout de suite. Parce
Jeff
que c'est vos
surtout.
Copains.
Ouais, c'est mes copains, ouais. Mais Jeff, il a une oreille incroyable. Ce mec, elle est hallucinant. Oui, mais alors je ne savais pas que c'était eux, en fait. Quand on m'a approché pour l'émission, il n'y avait plus d'enquêteurs. Il ne restait que Kev. Et j'ai dit à la productrice, je sais pas. Alors, j'espère que ce ne sera pas genre Chantal Latsou ou Jeff Panacloc, parce que là, je suis morte. Et ça a été les deux. Mais j'ai payé une expérience, vraiment, je me suis bien marrée. Puis moi, j'adore performer, j'adore être sur scène dans un masque ou pas. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire de mentir à tout le monde parce qu'on ment à tout le monde. Moi, j'ai menti à mes musiciens pendant des mois. Qu'est-ce que tu fais ? Ben rien, j'ai besoin de cette tonalité de chanson parce que je vais faire un truc. Mais comment on fait pas ? Ben non, parce que c'est pour... Enfin, je suis toute seule, enfin, n'importe quoi.
Moi, je vous aurais démasqué, franchement, avec cette imitation dalmatien, vraiment juste pour le plaisir. Moi, je sais juste faire le chat. Merci beaucoup, Christelle Chollet. Le spectacle.
C'est moi.
Reconditionné, c'est au théâtre de la Tour Eiffel. C'est du mardi au dimanche, il y a toutes les dates et on peut les retrouver. Et vous jouerez même le soir Noël et le 31 décembre.
Bien sûr, c'est les jours, j'adore jouer ces jours-là. Les gens, le 31 décembre, les gens sont tout beaux, ils sont tout à paillettes. C'est magnifique. Non, c'est très bien. Puis on a été privé de ça pendant le Covid et tout. Non, c'est très bien.
Et le 1er janvier, une matinée sponsorisée par Alka-Seltzer. Merci.
FIFA, oui.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média où nous serons avec le journaliste Joker à la présentation du 13h. C'est Jacques Legros. On parle de son dernier livre, Derrière l'écran, immersion dans les médias pendant ses 40 ans de carrière. Et puis un doc sur les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, les Batignolles, qui avaient décidé de sortir du silence en 2019. Nous serons avec le réalisateur Thibaut Ferrier et la porte-parole du mouvement Rachel Keke,
qui depuis s'est fait élire à l'Assemblée nationale. Elle est députée. Et puis le scénariste, producteur, acteur, réalisateur, entre autres du Dîner de cons, des compères de la chèvre, Francis Weber, pour sa nouvelle pièce de théâtre, Le Tourbillon. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Le programme du jour.
Alors aujourd'hui, on va essayer de dépoussiérer les maladies mentales des jeunes. Vous savez, il y a pas mal de people ou d'artistes qui ont contribué à ça cette année, en justement en parlant, ces dernières années, en parlant de leur dépression, de leurs troubles bipolaires. Alors, est-ce que c'est la célébrité qui rend, qui donne des problèmes psychiques, ou est-ce que c'est utile finalement pour mieux les comprendre et pour abattre les idées reçues? On en parlera.
Ouais, et Florence Foresti, justement, en avait parlé, et ça fait partie aussi de la série qu'on peut voir sur Canal+ en ce moment. C'était notre invité hier. Merci beaucoup, on vous écoute. Merci Christelle Chollet.
Je peux dire que c'est un bonheur de venir chez vous, monsieur Vandel.
Vous pouvez le dire, mais il faut enchaîner. Allez, salut, bonne journée à l'écoute d'Europe 1.